France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Une journée de deuil national débute ce matin pour un hommage à Jacques Chirac. 115 personnalités étrangères ainsi que quelques anciens présidents français seront présents à l'église Saint-Sulpice à Paris. Le cercueil de l'ancien chef d'État sera ensuite inhumé dans l'après-midi au cimetière du Montparnasse, aux côtés de celui de sa fille Laurence, décédée il y a 3 ans. Et pour ce qui est de l'hommage populaire à Jacques Chirac, des milliers de personnes font encore la queue en ce moment aux Invalides pour se recueillir devant le cercueil. Fermeture des portes prévue tout à l'heure à 7h. 4 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, tous les établissements scolaires doivent rouvrir ce lundi. 237 structures avaient été fermées en milieu de semaine dernière. Cela concernait 55 000 élèves. Face aux inquiétudes, le Premier ministre Édouard Philippe a promis la transparence. Il assure que toutes les analyses de la pollution engendrée par l'incendie seront communiquées. Un peu plus tôt, le ministre Gérald Darmanin concédait que la situation était grave à Rouen. Un incendie meurtrier en Grèce sur l'île de Lesbos. Au moins 2 migrants sont morts hier dans le camp de Moria. Les réfugiés en colère ont ensuite provoqué des émeutes pour protester contre le retard des autorités pour leur porter secours. L'incendie ce matin est éteint. L'extrême droite va retourner dans l'opposition en Autriche. Le FPE a remporté hier 16% des voix seulement lors des législatives. C'est son plus mauvais score depuis 2006. En revanche, les conservateurs, emmenés par le chancelier Sébastien Kurz, les conservateurs enregistrent un large succès devant les sociaux-démocrates et devant les Verts qui totalisent plus de 14% des voix. Sébastien Kurz va maintenant devoir former un gouvernement pour pouvoir rester au pouvoir. Et puis notons la reprise ce lundi du procès de la journaliste marocaine Hajar Reissouni, accusée au Maroc d'avortement illégal. Il y a une semaine, un manifeste était publié par des femmes marocaines. Il a été signé par 7000 personnes et dénonce les lois obsolètes et liberticides qui pénalisent l'avortement et les relations hors mariage au Maroc. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 6h30.
Voir le monde, au plus près, LSD, la série documentaire, Perrine Cavran.
Des rêves auscultés par des chercheurs, d'autres qui deviennent du cinéma italien, des expérimentations littéraires surréalistes ou des cauchemars de travail. Cette semaine, LSD scrute les songes. Et vous, vous avez rêvé de quoi cette nuit?
Le rêve, une réalité. LSD, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr. Fin des années 50, il révèle au monde une iconographie des États-Unis loin du rêve américain et révolutionne l'art de la photo. Il nous a récemment quittés. Hommage à Robert Franck, avoué nu sur France Culture au fil de 5 entretiens. La photo, mais aussi les films, posant l'appareil pour la caméra, explorer toujours encore l'extérieur pour aller vers l'intime.
Pour moi, c'est toujours de faire voir les sentiments qui sont humains. Les gens qui ont beaucoup de courage ont des sentiments profonds.
Hommage à Robert Franck, avoué nu, de lundi à vendredi à 20h, en intégralité sur France Culture.
À 6h03 pour commencer la semaine en douceur, nous retrouvons Toufik Hakem sur France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le Réveil culturel et bonne semaine à vous qui nous écoutez soit tôt le matin à la radio de 6h à 6h30, soit en différé en passant par l'écoute en ligne ou mieux l'abonnement au podcast de l'émission. Tous les lundis, c'est l'actualité des livres dans le Réveil culturel et aujourd'hui je reçois l'auteur de best-seller Bernard Werber qui publie chez Albin Michel Sa Majesté des Chats, la suite de Demain les Chats. Et dans cette histoire, dans cette saga, le monde court à sa perte, les humains se font la guerre comme d'habitude, mais les chats vont peut-être nous éviter le grand chaos annoncé, ou du moins sauver leur peau. Ce conte contemporain s'alimente des autres contes et légendes concernant cet animal de compagnie, qui n'est pas un animal de domestique, la nuance est de taille. Ceci dit, est-ce que les chats nous comprennent? Est-ce qu'ils communiquent entre eux ou avec les autres félins ou autres animaux? Sont-ils conscients de tout l'amour qu'on leur porte généralement, quand ce n'est pas carrément de la vénération? Est-ce que les chats nous aiment un peu, beaucoup, pas du tout, ou juste ce qu'il faut? Toutes ces questions sont posées en filigrane dans la nouvelle saga de l'auteur des fourmis. Et en deuxième partie de cette émission, je recevrai Marie Ronson, éditrice de la revue Miaou, parce que, oui, il y a une revue de luxe spécialement consacrée à celles et ceux qui aiment les chats. Le Réveil Culturel est une émission préparée ce matin par Sophie-Catherine Gallet, réalisée comme d'habitude par Vincent Abouchard, avec à la technique aujourd'hui Alain Joubert.
Le Réveil Culturel. Lundi, livre.
Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Cette fois-ci, vous prenez la voix d'une chatte.
C'est très rafraîchissant. Déjà, on sort de ces problèmes d'humains, tout d'un coup on voit le monde autrement. Et puis il s'avère que j'ai vécu avec 3 chats, et dont notamment ma dernière chatte Domino qui m'a inspiré mon héroïne de Basse-Tête. Et j'avais l'impression qu'elle m'observait et qu'elle avait l'air de comprendre des choses que je ne comprenais pas. C'est ça qui m'a inspiré. À partir de là, vu qu'elle était un peu diva et qu'elle était un peu prétentieuse et narcissique, je me suis dit, en fait, c'est une femelle, c'est un chat, c'est une diva. Du coup, j'ai une héroïne presque un peu négative, c'est-à-dire on sort de l'image des aristochats, du chat sympa qui veut du bien à tout le monde. Là, c'est une chatte pas très sympa, mais par contre, il a compris une chose, c'est que la clé de tout, c'est la communication. Et en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce qu'elle veut faire, c'est faire communiquer les chats avec les autres espèces. Et elle pense que la paix sur la planète, dans le monde, ne pourra se faire qu'à ce prix-là, la communication.
Vous venez de le dire, elle s'appelle Basse-Tête, votre héroïne, c'est une chatte de Montmartre, et ce n'est pas parce que c'est une réincarnation d'une déesse égyptienne qu'elle se prend pour le futur maître du monde. Non, c'est juste parce que c'est son caractère.
Ah oui,
c'est sa force. Elle s'en fout d'ailleurs de qu'elle ait été dans une autre vie déesse.
Bah, je crois que toute personne qui a un chat s'est aperçue que chaque chat considère qu'il est vraiment quelqu'un de très important et que tous les êtres qu'il y a autour de lui, à commencer par les humains, sont là pour son service. C'est assez étonnant, c'est vraiment le contraire du chien. Le chien est dévoué à l'homme, le chat considère que l'homme doit être dévoué à sa personne. Et moi, je me rappelle de ma chatte, elle régnait sur l'appartement, elle décidait qui lui plaisait et qui lui plaisait pas. Si la personne ne lui plaisait pas, elle se débrouillait pour lui faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Donc, quelque part, je crois que dès le moment où on a un chat, on a un roi, ou on a une majesté qui est installée dans son salon, oui.
Néanmoins, cette saga s'inscrit dans les temps présents.
Oui.
Avec toutes les inquiétudes de notre monde contemporain. Par exemple, Pythagore, l'ami complice de Basse-Tête, c'est un chat de laboratoire qui a un troisième œil. C'est-à-dire, en fait, une prise USB qui lui permet de se brancher sur Internet et de récupérer toutes les informations stockées ou partagées par les humains. Ce sont des animaux qui vont aussi échapper à leur destin de cobaye dans votre saga.
Oui, alors j'ai utilisé, en effet, en fait, ce n'est pas de la science-fiction dans la mesure où on fait réellement des expériences actuellement sur les chats, où on leur met des prises USB pour analyser notamment leurs rêves. Le chat est l'animal qui dort le plus dans notre univers proche de l'humain. Il dort 12 heures, donc la moitié du temps un chat dort, et en plus il rêve énormément. La découverte du sommeil paradoxal a été faite en faisant des expériences sur les chats. Donc j'ai imaginé qu'un de ces chats sur lequel il y a une prise USB qui lui sert un peu de possibilité de se connecter à Internet, j'ai imaginé que ce chat d'abord existe vraiment, qui s'appelle Pythagore, et il a accès à l'histoire des hommes et des chats. Donc il va pouvoir raconter à mon héroïne Basse-Tête comment les premiers chats sont apparus, comment ils ont été, comme vous le disiez tout à l'heure, vénérés en Égypte, et comment ils ont perdu un peu leur superbe au Moyen-Âge, avant de réapparaître comme stars actuellement, notamment comme stars d'Internet. Et ce chat, en fait, est friand de toutes les connaissances, et ce chat va être un peu l'initiateur de mon héroïne.
Et puis il y a aussi les rats. Les rats sont là. L'ennemi héréditaire du chat est tout aussi présent, et tout aussi touché, d'une part, par la violence des hommes et des expérimentations dans les laboratoires, mais aussi, eux aussi, ils veulent conquérir le monde. Ils ont le mauvais rôle. Enfin, ce n'est que le deuxième tome de cette saga. Pour l'instant, ils ont pas un beau rôle.
J'ai étudié les rats, et ce qui m'a surpris chez les rats, c'est le règne de la force. C'est-à-dire qu'ils éliminent les faibles, ils éliminent les vieux, ils éliminent les enfants qui sont pas assez débrouillards. C'est un petit côté spartiate. Si t'es faible, tu dois dégager. Et c'est cette valeur-là qui me semble digne d'être dénoncée. Finalement, chez les chats, il n'y a pas autant de violence. Et j'imagine une société où les rats régneraient en tant que civilisation, ça donnerait une civilisation très dure. Et mon héroïne, Bastet, en voyant les rats et en comprenant sa fonction de chat, comprend qu'elle a des valeurs chat qui peuvent être utiles à non seulement l'humanité, mais à tout ce qui vit sur Terre. Mais il y a une opposition entre la vision des rats qui est les plus forts cassent la gueule aux plus faibles et la vision des fourmis dans lequel il y a une entraide totale, voire un sacrifice pour la communauté. Donc c'est une vision.
Et pour les chats alors, Werner Werber?
Les chats sont entre les deux, les humains. Bon, ma chatte, elle est un peu plus côté fourmi parce qu'elle aime les communautés humano-chattes. Mais les humains, je crois, il y a quand même des valeurs rats et des valeurs fourmis, c'est-à-dire des valeurs de solidarité. C'est les valeurs de fourmis et des valeurs d'élimination de tout ce qui n'est pas conforme ou tout ce qui n'est pas similaire, qui sont les valeurs rats. Mais les rats sont très débrouillards. Il suffit de se promener dans certains jardins à Paris. On s'aperçoit qu'ils sortent quand même le bout du museau et qu'ils se demandent quand c'est que viendra leur tour de régner sur cette planète. Et ça me semble évident que les rats sont de potentiels successeurs à notre civilisation. Aucun de notre civilisation s'écroule.
Alors, ce qui rend cette saga, ce qui lui donne son côté conte, c'est que votre chatte, Bastet, arrive à communiquer avec, j'allais dire sa maîtresse, mais non, c'est le contraire qu'il faut dire, bien sûr, avec sa gouvernante.
Sa servante.
Sa servante.
Ben, elle va y arriver au bout de beaucoup de difficultés, puisque elle-même va recevoir un troisième œil. Là, je spoil un peu le livre, mais elle va avoir accès à toutes les connaissances des ordinateurs. Et donc, à ce moment-là, elle va enfin pouvoir communiquer avec sa maîtresse. Et elle va lui dire, depuis le temps que je te dis que j'ai besoin de plus de croquettes, depuis le temps que je te dis qu'il faut pas fermer les portes parce que je ne peux pas ouvrir les poignets. En fait, c'est d'une communication qui fonctionne en mode chat vers sa servante, à savoir, chère servante, tu ne me sers pas bien. Et je suis contente que, enfin, nous puissions parler pour que je t'explique comment il faut nettoyer l'appartement et comment il faut me faire plaisir. Voilà, c'est un peu une vision de chat, en fait, pour les humains.
En revanche, le monde des humains, parce que pendant ce temps-là, l'intégrisme bat son plein, on s'entretue, ça ne concerne pas les chats.
Je pense que les animaux qui voient une guerre entre humains, ils se disent pas « Ah, pourquoi ceux-là attaquent ceux-là ? Ceux-là, c'est les gentils, ceux-là, c'est les méchants. » Ils se disent juste « Tiens, ils sont en train d'utiliser leur énergie pour s'entretuer. On va attendre, on va voir s'ils sont après la guerre, toujours aussi forts. S'ils sont plus faibles, on prendra le relais. »
Voilà, je pense que tous les animaux... pas très sympathiques, on est d'accord, Werner Werber.
Par rapport à nos valeurs humaines. Mais nous-mêmes, nous sommes indifférents au malheur qui arrive aux chats. Moi, j'étais en Tunisie, j'avais vu des clochards en train de rôtir un chat qui n'était pas complètement mort. Il y a personne qui est intervenu. Donc, il n'y a pas de solidarité réelle pour les chats. Donc, pourquoi ils auraient de la solidarité envers nous? Par contre, elle a une petite solidarité envers sa servante, parce qu'elle a besoin de sa servante pour avoir des croquettes.
Donc, c'est très intéressé.
Les chats sont intéressés. Vous savez, il n'y a pas de chat de clochard. Il y a des chiens de clochard, mais vous verrez jamais un clochard avec un chat, tout simplement parce que le chat, s'il considère que le patron est un loser, enfin que son humain de référence est un loser, il va pas perdre de temps avec lui. De même, il n'y a pas de chat de policier, tout simplement parce que les chats ne sont pas là pour aider les hommes à résoudre des enquêtes criminelles. Ils ont autre chose à faire de plus intéressant. Non, les chats roulent pour eux et ils ont un peu rien à foutre de ce qui nous arrive, mais ils peuvent analyser notre violence comme un phénomène en se disant tiens, ils accélèrent leur déchéance et tout.
Est-ce que nous qui les aimons, on reçoit de l'amour de la part des chats, Werner Werber?
En général, l'amour est plutôt...
À sens unique.
À sens unique. Il y a des cas de chats gentils et affectueux, mais c'est plutôt, on va dire, 40%.
Voilà. Parce que vous insistez bien pour dire qu'ils sont sociables, sans doute, mais jamais animaux domestiques.
Non. D'ailleurs, si la civilisation humaine disparaissait d'un coup, je pense que les chiens auraient beaucoup de difficultés à s'adapter à la vie sauvage. Par contre, les chats ont gardé tout leur caractère de vie sauvage, donc ils pourraient très rapidement se remettre à chasser, très rapidement se mettre à trouver les pistes pour trouver de l'eau. En fait, les chats n'ont pas vraiment besoin de nous, alors que les chiens ont énormément besoin de nous.
Vous racontez plein d'histoires, certaines on les connaissait, d'autres moins ou pas du tout, à travers cette saga, ce deuxième tome de cette saga consacrée aux chats, Sa Majesté des Chats, édité chez Albin Michel, Bernard Bernard Werber. Mais vous vouliez nous raconter une anecdote à propos de votre fils et je vous ai arrêté.
Non, il a un chat qui étonnamment est très gentil. Et je le regarde, je me dis, bon, bah, il va falloir que je révise ma copie. Tous les chats ne sont pas des divas comme mon ancienne chatte et les deux chats qui étaient avant dans mon appartement. Mon fils a une chatte qui est une petite siamoise et elle est affectueuse, comme un chien. Je ne sais pas pourquoi.
Comme quoi ?
Chat petit fauve, Dieu des alcôves, Dieu des greniers, vrai tueur né, royale belle. Nuage chaud au frais museau, pierre précieuse, fleur amoureuse, viens dans mes bras, caresse-moi. Chat doux démon, dragon mignon, athlète fin au flanc des reins, âme d'orange, visage. Viens dans mes bras, caresse-moi. Chat doux penseur, calme empereur, chat dédaigneux, tendre et fiévreux, petit volcan rouge et crachant. Morsure exquise, cheval de frise, viens dans mes bras, caresse-moi.
Chat par Brigitte Fontaine, nous sommes avec Bernard Werber pour Sa Majesté des Chats. Deuxième livre d'une saga qui s'annonce longue, trois livres
non,
d'habitude.
Ça va. J'espère en faire une trilogie, mais ça dépend aussi des lecteurs, des retours des lecteurs. Vous savez, au moment où je sors un livre, je ne sais pas du tout est-ce que ça va plaire. Donc je suis très à l'écoute de ma famille de lecteurs. Est-ce qu'ils ont envie de lire la suite ?
Mais vous l'avez, la suite ?
Oui, je l'ai, mais si jamais je sens qu'il n'y a pas d'intérêt, je la publierai pas. J'essaie vraiment d'interagir avec mes lecteurs. C'est-à-dire que je tiens énormément compte de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de ce qui se passe sur Internet, des avis, des critiques, de toute cette nouvelle manière de répondre à l'auteur grâce à cet outil informatique.
Pourquoi ? Parce que vous insistez pour être un auteur populaire ?
Pour être un auteur, en tout cas, à l'écoute de ses lecteurs. Je considère que quelqu'un qui rentre dans une librairie, qui paye 20 euros, qui va passer 7 heures à tourner des pages, est quelqu'un qui mérite que j'écoute ce qu'il a ressenti et ce qu'il pense du livre. Je suis conscient de ce que je dois à cette communauté de lecteurs qui a découvert mes livres et qui me suit. Donc c'est ma manière de leur être reconnaissant et de tenir compte de leur avis. Donc s'ils n'ont pas aimé ce livre, je ne ferai pas de suite.
Alors pour revenir à votre livre, Bernard Werber, à un certain moment vous dites que ce qui manque au chat pour avoir le pouvoir et diriger le monde, et ben c'est justement le pouvoir d'écrire une histoire.
Vous savez, toutes les civilisations qui n'ont pas écrit ont pratiquement disparu, et notamment la civilisation gauloise. On connaît de la guerre des Gaules, de l'arrivée de César, que la version de César. On ne sait pas les Gaulois ce qu'ils en pensaient. Donc on a la version de l'envahisseur qui vient tuer tout le monde, qui raconte comment ça s'est passé, mais on n'a pas l'histoire des victimes. Donc je crois que dès le moment où on n'a pas pensé avoir des historiens ou des gens qui racontent des histoires, eh ben on perd la bataille. Et ma chatte a compris ça. Elle se dit, c'est celui qui va raconter l'histoire finale qui va gagner. Donc elle a envie d'apprendre à écrire et elle apprendre à lire. La plus grande invention, à mon avis, de l'humanité, c'est le livre. Ça permet à la pensée de persister et de se diffuser dans l'espace et dans le temps.
Quand vous dites le livre, ça peut être aussi bien Ulysse ou la Bible.
Il y a des bons livres, il y a des mauvais livres, il y a des livres qui transportent l'amour et d'autres qui transportent la haine, mais en tout cas, ça fige la pensée et ça permet à la pensée de survivre à l'auteur. Maintenant, moi, je préfère les livres qui transportent l'amour et la joie de vivre. Maintenant, il y a par moments des modes à dépression et aux livres suicidaires. Je le constate, c'est-à-dire le livre en soi est un outil. Maintenant, ce qui est formidable, c'est qu'on utilise cet outil pour transmettre des bonnes idées.
Dans votre saga, Bernard Werber, il y a des scènes d'action, de poursuite, il y a de la tension. On est dans un film, pratiquement. Ouais. Et il y a même des intrigues, des personnages. Est-ce que il y a aussi, chez vous, une envie de parler d'autre chose, c'est-à-dire de ce qui se passe dans le monde, vis-à-vis de notre relation à la nature et aux animaux? Est-ce que vous avez des messages, Bernard Werber?
Alors déjà, il y a un message que donne Nathalie à ma chatte Bastet au moment où il communique, c'est « il vous manque trois choses à vous les chats, c'est l'humour, l'art et l'amour ». Ça m'a l'air déjà ce qui différencie l'homme. En quoi sommes-nous plus intéressants qu'un écureuil? En quoi sommes-nous plus intéressants que d'autres espèces animales comme le singe ou quoique les singes ils doivent avoir une forme d'humour à eux. Mais en tout cas, la plupart des animaux n'ont pas le goût de l'art pour l'art, c'est-à-dire une activité qui ne sert a priori à rien, juste qu'à produire de la beauté. L'amour qui ne soit pas juste tourné vers la sexualité, mais vers un sentiment. Et l'humour, c'est qui est une manière de comprendre la tragédie du monde et de ne pas en être affecté. Ces trois notions sont vraiment typiquement humaines. Sa Majesté des Chats et l'apprentissage surtout de mon héroïne Bastet, qui va comprendre que tant qu'elle n'aura pas l'humour, l'art et l'amour, elle ne pourra pas bâtir une civilisation de chats qui puisse être pérenne.
Vous y croyez, vous, à une civilisation de chats sur les décombres de notre civilisation humaine?
Je crois que notre civilisation humaine peut s'effondrer. D'abord parce qu'elle est récente. On a l'impression, nous, qu'elle est ancienne parce qu'on a des références anciennes, mais les fourmis, c'est 120 millions d'années, l'humanité, c'est 3 millions d'années. Donc, nous sommes pas les premiers. Et ensuite, parce qu'elle m'a l'air très fragile. Quand on voit ce qui est arrivé à Tchernobyl, quand on voit ce qui arrive maintenant avec les tensions internationales, et avec les nouveaux outils que sont les outils de destruction que sont les bombes atomiques, je pense que notre civilisation peut être détruite très rapidement. Et aussi autre chose, c'est les virus. Je me rappelle, il y avait eu une alerte à H1N1, et je crois que, à l'époque j'étais journaliste scientifique, je crois que les gens ne se sont pas rendus compte à quoi nous avons échappé, mais ça aurait pu très bien tourner très très mal, et on n'était pas prêt à gérer ça du tout.
Et puis enfin, Bernard Werber, il y a aussi l'idée de coalition chez les chats,
oui.
Puisqu'ils vont essayer d'avoir l'aide de quelques volatiles, d'autres animaux.
Des porcs surtout.
Oui, des porcs, ouais.
Les porcs m'ont l'air des animaux les plus intelligents dans notre entourage. Et donc il y a une grande scène où des humains et des chats sont capturés par des porcs qui font le procès de l'humanité et qui disent « bon ben voilà, nous avons des griefs quand même envers les humains qui nous maltraitent et maintenant vous allez nous expliquer pourquoi vous ne faites ça ?» Et ça, c'était la scène où j'ai pris le plus de plaisir à rédiger ça, parce que j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un porc, disant, ben maintenant, il est temps qu'on fasse les comptes. Pourquoi nous avez-vous traité comme ça? Nous, on rêvait d'être vos amis, et pourquoi ce rendez-vous n'a pas eu lieu? Et à un moment, le juge lui dit, écoutez, on est désolé, mais si jamais vous n'arrivez pas à nous convaincre, ben il y a déjà ces deux têtes d'humains qui sont pas arrivés à nous convaincre aussi, et il présente deux têtes dans lesquelles il y a une tomate dans la bouche et du persil dans les oreilles et de l'ail dans les narines. Et il dit, bon, bah, essayez de trouver, d'être plus convaincant. Eux n'y sont pas arrivés. Mais on écoute vos arguments.
D'abord, Demain les chats, ensuite Sa Majesté des Chats qui vient de sortir. Vous avez le titre du troisième
Non. J'ai juste l'intrigue globale. J'ai quand même 100 pages d'intrigue globale. Mais vous savez, quand j'ai fini Sa Majesté des Chats, j'étais tellement bien dans ce petit monde avec mon héroïne. J'avais envie d'y rester un peu. Juste déjà en plaisir, simple plaisir d'écrire et de créer des images.
Avez-vous entendu parler de cette revue qui a pour titre Miaou? la revue Pour enrôner de bonheur. C'est un trimestriel. Dans le dernier numéro, il y a un entretien d'un certain Bernard Werber. Mais évidemment, il y a aussi un dossier sur l'histoire des chats, une enquête sur les fuguettes ou comment retrouver son chat et une question. Pourquoi les chats ont-ils peur des concombres? Mais je savais même pas qu'ils avaient peur des concombres, Bernard Werber.
C'est sur Internet, on voit partout des concombres qui surgissent et les chats qui courent partout. Il y a beaucoup de mystères sur les chats, notamment le concombre, mais il y a aussi le laser. Moi, je mettais le petit point rouge laser devant ma chatte. Elle arrêtait de réfléchir, elle était juste fascinée par ça et elle pouvait se laisser s'arrêter de manger juste pour voir le laser. Enfin, tous les gens qui ont des chats doivent comprendre de quoi je fais.
Bonjour Marie Ronson.
Bonjour.
Vous êtes éditrice de cette revue, la revue Miaou, luxueuse, avec beaucoup de chatons, hein, mais pas que, puisqu'il y a aussi de très belles photos. Et si vous voulez répondre à la question « Pourquoi les chats ont-ils peur des concombres ?» Qu'est-ce que vous répondez dans cet article de votre revue?
Parce que ils pensent que ce sont des serpents.
Voilà. Voilà. Comment est née l'idée de cette revue?
Depuis toujours, on se dit que les chats, ce sont une bonne matière pour parler de culture, déjà. Quel animal inspire plus les artistes, les écrivains que les chats? Il y a énormément d'écrits sur les chats et il y a beaucoup, beaucoup de mystères, d'intérêts autour des chats. On connaît le phénomène lolcats sur Internet, etc. Et ça nous a paru évident que on pouvait, sur cette base-là et avec une belle communauté de passionnés de chats, proposer une revue un peu différente. Voilà, dans notre jargon, ça s'appelle un MOOC. Hein, c'est la contraction entre magazine et book, parce que c'est une revue qui ressemble à un livre, en fait. Hein. On s'attache à la rendre très qualitative, tant par la création, le papier, que la belle photographie, la mise en page, comme un livre, en fait. Voilà, ça manquait. On trouvait que sur ce segment-là, ça manquait.
Et vous saviez qu'elle existait, cette revue Miaou, Bernard Werber, avant d'avoir reçu cette proposition d'interview?
Non seulement je savais que ça existait, mais je suis fan et je trouve que c'est formidable. J'avais lu un interview le mois dernier. C'est quoi, c'est un semestriel?
Trimestriel.
Donc dans le dernier numéro de Gueuluc, que j'avais trouvé formidable. Et puis il y a des photos, je sais pas où vous trouvez ces images de chats qui sont superbes. Ils sont naturellement, c'est un animal naturellement beau, ou alors selon nos critères. Mais vous arrivez à trouver une diversité de chats qui est fabuleuse. Bravo.
Alors il y aura une fête des amoureux des chats à l'occasion de la sortie de Sa Majesté des Chats, Bernard Werber.
Oui, le 4 octobre au Grand Rex, c'est une fête de l'Antiquité qui existait 1500 ans avant Jésus-Christ. C'est une fête qui était un peu le Woodstock de l'époque, à savoir ça démarrait sur 3 jours d'orgies, de danse, de nourriture, de liberté et sexuelle et festive, entouré de chats, avec des gens tous déguisés en chats. Et bon, on va pas arriver au Grand Rex à reproduire ça, mais j'ai fait venir quelques amis, il va y avoir des sketchs, notamment Eric Antoine qui va nous faire un tour de magie avec des chats, Bruno Salomon, il va y avoir Célig, il va y avoir le spécialiste de la ronron-thérapie, l'inventeur de la ronron-thérapie, Jean-Yves Gaucher, il va y avoir Laetitia Barlerin, et tous ces, on va parler chats, on va fêter les chats, on va se déguiser en chats, et c'est un peu nouveau, je sais pas si ça va marcher.
En tout cas, Miaou sera là. Et la revue Miaou sera sans doute là.
Mais oui, oui, bien sûr. On s'en est fait le relais dans l'interview de Bernard dans la revue. Voilà, c'est un événement qui est assez inédit et qui sera passionnant, j'en suis sûre.
Comment vous choisissez les sujets? À quoi ressemble une réunion de rédaction de la revue Miaou? Est-ce que tous les journalistes ont des chats?
Non, c'est pas forcément indispensable, mais les sujets, y a pas à les chercher très loin. Le chat, c'est une source d'inspiration inépuisable, en fait, parce que finalement, on parle des gens derrière le chat et ses mystères. On parle d'histoire vécue, d'émotions partagées, et voilà, on trouve, on a une auteure très experte sur les chats, voilà, on angle beaucoup sur le bien-être. Hein, vous l'avez dit, c'est la revue Pour ronronner de bonheur. Donc les sujets même de ronron-thérapie, et le chat a beaucoup à nous apprendre. C'est un maître zen, voilà, dont on peut souvent s'inspirer.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Merci Marie Ronson d'être passée.
Merci.
Et merci Bernard Werber d'être venu dans le Réveil culturel pour nous parler de votre roman édité chez Albin Michel, donc deuxième volet d'une trilogie annoncée, Sa Majesté des Chats.
Et le 4 octobre.
Et le 4 octobre,
on vient à 20h, pour ceux qui aiment les chats et qui ont envie de les fêter.
Merci beaucoup. On se retrouve demain à la même heure. Passez une belle matinée sur France Culture.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Le groupe des 6 à l'auditorium de Radio France. Du 4 au 12 octobre, Mico Franck et l'Orchestre Philharmonique de Radio France nous plongent dans l'univers du groupe des 6. Musique claire, insouciante et légère, mélodie franche, Le Bœuf sur le Toit, Pacifique 231, Scaramouche, découvrir ou redécouvrir Arthur Honegger, Darius Milhaud, Germaine Taillefer, Francis Poulenc, Georges Auric et Louis Duret. Réservation maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La situation à Rouen est grave, concède le gouvernement qui promet la transparence. 5 jours après l'incendie d'une usine classée Céveso, les établissements scolaires vont rouvrir ce matin. Mais l'inquiétude règne et certains enfants n'iront pas en classe, vous l'entendrez. Dans ce journal, nous évoquerons aussi l'hommage à Jacques Chirac. Après les Invalides hier, une messe solennelle aura lieu aujourd'hui dans une église. Et en classe, justement, les enseignants sont invités à parler de l'ancien président avec leurs élèves. Tous ne le feront pas. Notons aussi qu'au Maroc, le procès d'une jeune femme pour avortement illégal reprend ce lundi. Les femmes marocaines se mobilisent plus généralement contre ces mesures qu'elles jugent liberticides. Malgré les odeurs, quelques traces de suie et les inquiétudes, les écoles à Rouen et dans son agglomération rouvrent ce matin, 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol classée Céveso. Les autorités, et notamment l'Agence régionale de santé, assurent qu'il n'y a plus de pollution ni de risque pour la santé. Ce message toutefois passe mal auprès de beaucoup de parents d'élèves et de leurs enfants, comme ceux rencontrés par Thibault Lefebvre à Bois-Guillaume sur les hauteurs de Rouen.
Ambre, 9 ans, souffre de maux de ventre persistants.
2 jours après le jeudi, j'ai vomi. Le lendemain, j'ai vomi. Juste avant, j'avais mal à la gorge.
Sa grande sœur, Noah, a elle craché du sang dimanche matin.
Dès que je me suis réveillée, j'ai eu du sang qui sortait de mon nez et de ma bouche.
Malades, Noah et Ambre n'ont pas ouvert une fenêtre depuis 4 jours. Pour la première fois ce matin, elles vont sortir de chez elles.
Mes amis sont inquiètes, moi aussi du coup. J'ai peur d'avoir des problèmes respiratoires, d'être pas bien, Enfin voilà. Aussi les coulures que j'ai vues dehors, et puis l'odeur quand même qui reste de temps en temps me fait penser que pour moi... C'est pas encore réglé.
Des doutes partagés par la maman, Rachel. Pour elle, la priorité du moment, ce n'est pas l'école.
À partir du moment où il y a des symptômes physiques, j'estime que c'est dangereux. Je voudrais faire une prise de sang à mes filles et moi-même pour voir si tout va bien, hein, un bilan sanguin. C'est bizarre, on le sent, ça pique les yeux. Quand je vois des gouttes d'huile qui tombent lorsqu'il pleut, c'est juste pas possible. Et je pense qu'on n'a pas le temps nécessaire pour être sûr que tout va bien, quoi, tout simplement.
Le docteur, donc, avant l'école, et en cas de résultat de prise de sang anormaux, Rachel envisage, comme d'autres riverains depuis vendredi, de porter plainte contre X.
Le Premier ministre Édouard Philippe, lui, s'engageait par ailleurs hier à la transparence totale concernant les analyses faites à Rouen. Un hommage populaire depuis hier aux Invalides avant une messe ce matin en l'église Saint-Sulpice à Paris et un enterrement plus intime cet après-midi. Ce lundi est une journée de deuil national en souvenir de Jacques Chirac décédé jeudi dernier. Les drapeaux seront en berne sur les édifices publics et les Français sont appelés à observer des minutes de silence à 15h notamment dans les salles de classe. Le ministère de l'Éducation nationale invite d'ailleurs les enseignants à évoquer s'ils le souhaitent la mémoire de l'ancien chef de l'État dans leur classe. Cela pourrait passer par un cours spécifique sur Jacques Chirac, une idée pourtant qui ne fait pas l'unanimité, Sonia Princey.
Le rôle de Jacques Chirac est abordé dans les programmes d'histoire en troisième et en terminale, notamment à travers les chapitres sur les institutions de la Ve République, le passage du septennat au quinquennat, ou encore sur les mémoires et la rafle du Vel'd'Hiv. Véronique Garrigue, qui enseigne dans un collège du Tarn, abordera ces thèmes plus tard.
Ça intervient plutôt au milieu de l'année scolaire, donc voilà, en termes de temporalité, là pour l'instant c'est c'est pas vraiment le bon moment pour nous. Donc, soit les élèves nous posent des questions, mais sinon, on continuera le cours normal de la journée avec les élèves.
La plupart des professeurs d'histoire-géographie ne veulent pas être dans l'émotion. Amélie Artutas est responsable au SNES du groupe des professeurs d'histoire-géographie.
C'est toujours intéressant de parler des figures historiques, mais d'en parler en les contextualisant. En parler comme ça, comme un cheveu sur la soupe, je dirais, alors qu'on est en train de faire tout autre chose par ailleurs, si c'est juste pour le symbole et pour créer un moment de recueillement social, c'est pas le sens et l'objectif d'un cours d'histoire, en fait. On n'est pas là pour ça.
Certains professeurs jugeront au contraire que c'est l'occasion d'aborder un chapitre du programme, mais le ministère a bien précisé que ce n'était pas obligatoire.
Alors ce matin, en l'église Saint-Sulpice, près d'une centaine de personnalités politiques seront présentes pour rendre hommage à Jacques Chirac, notamment de nombreux dirigeants étrangers, du russe Vladimir Poutine à Jean-Claude Juncker, encore président de la Commission européenne. D'anciens dirigeants seront présents également, mais peu de représentants américains. La Maison-Blanche a mis du temps à réagir, Loïc Loury.
L'ancien président Chirac a travaillé sans relâche pour préserver les valeurs et les idéaux que nous partageons avec la France. Ce communiqué est signé Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine. Nous n'oublierons jamais, dit-il, qu'il a été le premier chef d'État à se rendre aux États-Unis après les horribles attentats du 11 septembre 2001. Et pourtant, il aura donc fallu attendre ce dimanche pour voir un responsable de l'administration Trump présenter ses condoléances et toujours pas un mot de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Du côté de ses prédécesseurs, Barack Obama est resté silencieux, tout comme surtout George W. Bush, à qui Jacques Chirac avait dit non sur la guerre en Irak. Pour un hommage appuyé, c'est à Bill et Hillary Clinton qu'il fallait remonter. C'était un homme d'État audacieux, talentueux, qui n'a, affirme-t-il, jamais varié sa défense des intérêts français ou sa recherche d'une Europe forte, unie et libre. Il semblerait toutefois qu'à Washington, on ait surtout retenu la belle bravade de 2003.
Donald Trump veut rencontrer le lanceur d'alerte qui a transmis le signalement sur son entretien téléphonique avec l'Ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain le décrit comme son accusateur. En juillet, il avait demandé par téléphone au président ukrainien des informations sur son rival démocrate Joe Biden et sur son fils soupçonné de corruption. Depuis, les démocrates aux États-Unis ont entamé une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump, mais cette affaire pourrait aussi y toucher et ébranler Joe Biden. Quelle analyse en faire ? Nabila Hamel a posé la question pour France Culture à Corentin Célin, professeur d'histoire et spécialiste des États-Unis.
Pour l'instant, il n'y a aucun élément judiciaire contre Joe Biden ou son fils. Le risque est politique. On sait depuis très longtemps que Hunter Biden, le fils de Joe Biden, est un handicap pour la campagne de son père. C'est un personnage fantasque qui a connu d'énormes difficultés personnelles. Et évidemment, le fait qu'il soit remis ainsi sur le devant de la scène, ainsi que ses, contrats d'affaires dans la foulée de son père lorsqu'il était vice-président, n'est pas très bon politiquement. Mais pour l'instant, il n'y a aucun fait de type délictueux ou même suspect qui ait été dévoilé. L'ironie de l'histoire de cette séquence, c'est qu'on peut trouver assez cocasse que Donald Trump fasse maintenant de la dénonciation. Il l'a dit encore hier sur son compte Twitter. Il veut nettoyer le marécage de Washington, nettoyer la corruption et le népotisme, alors que lui-même se voit reprocher depuis son entrée en politique la confusion totale des genres, avec sa fille et son gendre qui sont conseillers politiques à la Maison-Blanche, lui-même qui n'a pas du tout, comme c'était la tradition, renoncé à profiter de ses intérêts d'affaires. Il n'a pas établi de muraille de Chine entre lui et la gestion de son entreprise depuis qu'il était à la Maison-Blanche. Donc il y a une forme d'ironie à le voir aujourd'hui réenfourcher ce cheval de la lutte contre la corruption et le népotisme.
C'était Corentin Célin, professeur d'histoire et spécialiste des États-Unis. En Autriche, le chancelier conservateur Sébastien Kurz remporte les législatives. Le dirigeant de 33 ans sort même renforcé avec 33% des suffrages. En revanche, c'est son ancien allié, le FPE, à l'extrême droite, qui subit un net revers. Il perd 10 points et a fait savoir qu'il siégera désormais dans les rangs de l'opposition. La mobilisation de l'opposition russe hier a été massive pour protester contre la répression policière de leur mouvement de contestation lancé à la mi-juillet contre le Kremlin. 20 000 personnes se sont ainsi réunies hier à Moscou, demandant également la libération des opposants emprisonnés. Elle manifeste par les mots, dénonçant la pénalisation de l'avortement au Maroc et des relations hors mariage. Près de 7 000 personnes ont déjà signé une tribune en ce sens qui avait été publiée par plusieurs personnalités marocaines. Toutes réagissent en fait à un procès d'une journaliste accusée d'avortement illégal, procès qui reprend aujourd'hui. Sonia Terab, réalisatrice marocaine, est l'une des rédactrices du manifeste. Elle nous explique comment avance leur combat actuellement.
L'idée, c'est de vraiment mettre la pression sur nos législateurs, sur le Parlement, pour que ces lois soient discutées. Donc, on réfléchit à déposer et une pétition, et ensuite une motion gouvernementale qui implique un projet de loi. Et surtout, surtout, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est un vrai débat national au Parlement, retranscrit à la télévision, avec nous, mais aussi tous les acteurs de la société civile, les associations. Et c'est comme ça qu'on va sortir du virtuel et entrer dans le concret. Et là, on est en train de recevoir des centaines de témoignages de jeunes femmes qui ont ou avorté dans des conditions déplorables, ou bien on les accuse d'être dans la débauche, ou bien elles ont déjà été arrêtées par les flics. Et on récolte ces petits témoignages et on les poste de manière anonyme pour créer à travers l'empathie une identification. Et le Maroc, ça ne marche pas les manifestations. Et les gens ne prennent pas d'assaut la rue. C'est pas dans notre culture. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On a une jeunesse qui ne s'est jamais mobilisée, qui n'a pas d'espoir, qui se sent impuissante. Et si on utilise les outils pour leur parler, ben on les mobilisera. Il s'agit de mener un combat après l'autre. Il s'agit aussi de donner l'exemple. Donc là, on a mobilisé sur cette cause. Demain, j'espère qu'il y en aura d'autres, des collectifs LGBT, etc. Mais l'idée vraiment aujourd'hui, c'est de dire aux Marocains, c'est possible.
Ces propos ont été recueillis par Théa Olivier à Casablanca pour France Culture. Le temps de ce lundi en France métropolitaine, il sera marqué par l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse par le nord-ouest. Météo France prévoit partout ailleurs quelques nuages, comptés dans la matinée, 16 degrés à Brest, à Lille et à Paris, 17 à Strasbourg, 20 degrés à Bordeaux et 23 à Nice. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous nous rejoignez à 6h40 pour le journal des idées sur France Culture. Et Jacques, entre les élections en Autriche avec un net recul de l'extrême droite et la recherche d'une coalition, avec les manifestations pro-démocratie à Moscou et à Hong Kong, ce dimanche, hier, était très politique.
Oui Clara, dans les échos, Dominique Moïsi évoque la spectaculaire dérive de nos sociétés démocratiques. Dans un monde, je cite, où les querelles identitaires se sont très largement substituées aux conflits idéologiques, le niveau de division, sinon de fragmentation des peuples, n'a jamais été plus élevé. Prenant l'exemple d'Israël, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, il en mesure le risque, rendre nos sociétés ingouvernables, même s'il est trop tôt pour enterrer la démocratie représentative qui continue d'opposer à l'exécutif des limites à ses abus de pouvoir. Les divisions vont continuer au sein des peuples et à court terme au sein des partis d'opposition qui devraient constituer les principaux freins aux dérives populistes des leaders de l'exécutif. De Hong Kong à New York, en passant par Moscou, un grand « ça suffit » parcourt la planète. Dans les pages idées de Libération, Frédéric Worms entend cette exclamation qui prend diverses formes, traverse tous les pays et les continents, comme un cri global qui traduit un désir de limite, de régulation et donc de justice. Pour le philosophe, c'est d'abord un sursaut global face aux dangers globaux, les plus extrêmes mais aussi les plus partagés, liés à la dégradation de l'environnement, mais il y voit aussi une forme de résistance aux abus de pouvoir. À quoi cela pourrait-il nous conduire, demande-t-il, telle ou telle taxe mais globale, tel ou tel tribunal, y compris pour les dictateurs, telle ou telle liberté reconquise ou garantie, des limites fermes et reconnues, mais qui dispensent des replis guerriers supposés en tenir lieu. Un immense « ça suffit » parcourt la planète, s'il pouvait dessiner sur elle autre chose que des murs, mais la forme préservée d'un monde, alors nous ne l'aurons pas ressenti, exprimé, entendu, partagé pour rien. Philosophie Magazine publie un dossier sur la société de contrôle. L'universitaire américaine Shoshana Zuboff a été l'une des premières à prendre la mesure des transformations induites par l'informatique et la robotique dans le monde du travail. Son dernier livre, à paraître chez Zulma, porte un titre éloquent, « L'âge du capitalisme de surveillance ». Elle y montre comment les géants du web ne cherchent plus seulement à capter et à monétiser nos données, mais à prédire et à influencer nos comportements, Selon elle, le déclic se serait produit un jour d'avril 2002. 5 pics successifs à 5 moments de la journée pour une seule requête. Nom de jeune fille de Carole Brady, du nom d'un personnage de série télé. La question avait été posée pendant l'émission « Qui veut gagner des millions ?» diffusée justement sur les 5 fuseaux horaires américains. Pour les ingénieurs de Google, ce fut une révélation. Les requêtes des usagers pouvaient être utilisées comme des signaux permettant de prévoir des événements avant qu'ils n'apparaissent sur les radars des médias traditionnels. Un tournant qui a fait pivoter le système du savoir vers le pouvoir. On pouvait alors ajuster, enrôler et modifier les comportements afin que les prédictions aient une plus grande fiabilité. Tout cela à partir du traitement de nos données, de manière à intervenir en retour sur nos choix pour nous guider de sorte que notre action soit plus conforme aux prédictions et alignée sur les besoins du marché. Pour Shoshana Zuboff, la prochaine zone d'expansion de cette surveillance unilatérale, secrète et illimitée sera la ville, un espace idéal pour tester la manière dont on peut remplacer le gouvernement démocratique par la gouvernance algorithmique. Elle évoque une filiale de Google qui installe depuis des années des relais Wi-Fi gratuits dans les grandes villes et qui veut conclure un accord avec la ville de Toronto pour la gestion de son front de mer. Tout ce qui s'y passe serait traité comme urban data, exploitable dans la perspective de décision publique. C'est ainsi que la computation informatique, conclut Shoshana Zuboff, remplace la délibération démocratique. Or, quand ils sont élaborés par des capitaux privés, les algorithmes ont tendance à favoriser leurs détenteurs. L'hebdomadaire Le 1 est consacré cette semaine aux nouveaux prolétaires du web. Les grèves menées par les livreurs Deliveroo et par les chauffeurs Uber ont mis au jour les conditions de travail éprouvantes et la précarité de ces travailleurs prétendument indépendants, mais à la merci des exigences édictées par les applications. Sarah Abdelnour, qui vient de publier avec Dominique Méda Les nouveaux travailleurs des applis, évoque le capitalisme de plateforme, un terme utilisé pour bien le distinguer de l'économie collaborative dont il se réclame parfois. La sociologue s'intéresse aux plateformes car elles représentent une occasion, voire un prétexte, pour déréguler les statuts d'emploi, bousculer les frontières des professions, le tout en continuant à surveiller et contrôler les travailleurs, comme un retour aux conditions les plus aliénantes du travail à la tâche au XIXe siècle. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Mignet, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, les députés conservateurs vont-ils resserrer les rangs autour de Boris Johnson ou non?
Oui, on va le savoir d'ici peu, puisque demain, 1er octobre, commence un mois crucial pour le Royaume-Uni et l'Europe, peut-être le dernier mois d'une coopération, d'une adhésion de près d'un demi-siècle. Boris Johnson souhaite toujours que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 31 octobre, même sans accord. La question sera évidemment au centre des discussions de son parti, les Tories, le parti conservateur, réuni en congrès depuis hier et jusqu'à mercredi à Manchester. Bonjour Pauline Schnapper.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle. Alors avant d'évoquer ce qui a déjà été dit hier à ce congrès, on peut commencer par ce qui ne s'y est pas dit, par ceux qui ne sont pas là. Les absents vont donner une certaine tonalité à ce congrès.
Oui, il va y avoir un certain nombre d'absents, des députés conservateurs et des militants, disons, de la branche modérée du parti, qui n'ont pas suivi Boris Johnson dans son évolution populiste, disons, pour faire court. C'est-à-dire des gens qui ont démissionné, donc un certain nombre de députés qui ont quitté le parti, et puis les 21 députés qui en ont été exclus il y a quelques semaines, avant la suspension ratée du Parlement. Donc on peut supposer que nous n'irons à ce congrès que les militants et les élus qui suivent la ligne de Johnson et qui vont approuver sa position jusqu'au boutiste sur la sortie du Brexit.
D'ailleurs, parmi ceux qui se sont fait exclure du parti, est-ce que certains ont, comme ceux qui ont fait défection, ont rallié un parti, et notamment, en tout cas, ceux qui ont fait défection ont rallié les libéraux démocrates, ceux qui sont les seuls aujourd'hui à dire que s'ils sont élus, ils feront abroger le Brexit purement et simplement, le supprimeront, l'annuleront. Est-ce que parmi les 21 21 qui sont fait exclure, certains ont rejoint les rangs de ce parti-là.
Non, non, ces 21-là ne sont pas tout à fait du même acabit, si je puis dire, que ceux qui avaient volontairement quitté le parti dans les mois qui ont précédé. Ces 21-là en ont été exclus et ils n'avaient pas du tout l'intention de quitter le parti. Donc ce sont des gens qui, pour l'instant, sont un peu dans les limbes et qui souhaitent se représenter quand les élections auront lieu, comme des indépendants ou, comme certains disent, des conservateurs indépendants, même s'ils risquent d'avoir du mal à être autorisés à conserver le mot conservateur. Ce qui pose d'ailleurs un problème pour l'opposition travailliste et l'IPDEM, s'ils veulent avoir le soutien de ces députés-là, ce sont quand même des députés conservateurs et qui restent des députés conservateurs et qui donc, par exemple, pour vous donner un exemple, ne sont pas du tout prêts à voter pour Jeremy Corbyn, même de façon provisoire.
Qui continue à être très très clivant. Philippe Lee, c'est ce député qui a fait défection en plein discours de Boris Johnson au Parlement et lui a fait perdre en direct sa majorité il y a quelques semaines.
Lui a traversé effectivement les rangs et est passé du côté des libéraux-démocrates.
Voilà, et c'est lui qui...
pas les 21 autres.
Voilà, et c'est lui qui dit que le Brexit a transformé ce qui fut un jour un grand parti en une faction étroite, en parlant du Parti conservateur. Est-ce que c'est un abus de langage? Est-ce que c'est vrai? Le Parti conservateur compte aujourd'hui 160 000 adhérents, le Labour en a trois fois plus. C'est vrai?
Oui, oui, c'est tout à fait vrai. C'est vrai au niveau de ses militants, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire que c'est un parti étroit en nombre de militants et surtout en catégorie socio-professionnelle. Hein. Les militants conservateurs sont très majoritairement relativement âgés, blancs, pas du tout représentatifs de la population dans son ensemble. Et puis c'est vrai aussi au niveau de son leadership. Hein, Boris Johnson lui-même, les gens qu'il a installés à son gouvernement, sont des gens qui représentent vraiment ce qui n'était jusqu'à maintenant qu'une faction du Parti conservateur la plus extrémiste, en tout cas sur un certain nombre de sujets économiques et évidemment le Brexit. Et ça n'est plus du tout ce que ça a été pendant très longtemps, c'est-à-dire un parti très large qui allait du centre-droit à la droite plus, pas extrême, mais enfin, disons la droite traditionnelle, qui était un parti donc plutôt bourgeois, plutôt proche des milieux d'affaires, plutôt pragmatique, peu idéologisé. Tout cela, en ce moment, a disparu.
Les membres du Parti conservateur ne se sont pourtant pas découverts soudain des divergences sur la nature de leurs liens ou leurs convictions sur la nature de leurs liens avec l'Union européenne, entre les défenseurs du projet européen, ceux qui détestent la bureaucratie bruxelloise. Ça fait longtemps qu'ils en parlent entre eux. Est-ce que le Brexit est la seule raison de ces divergences aujourd'hui et de ces défections et de ce désamour? Est-ce que les politiques d'austérité ont joué un rôle aussi?
Alors, pas dans les divisions du Parti conservateur, non. Non, l'Europe a été un facteur très important. Comme vous le dites fort justement, les divisions au sein du Parti conservateur remontent aux années 90, mais elles ont été exacerbées par le référendum de 2016. Et puis, je crois surtout que là où se fait le clivage au sein du parti, c'est sur la stratégie d'un certain nombre de conservateurs menée par Johnson, alors encore une fois populiste pour faire court, c'est-à-dire d'essayer de monter le peuple entre guillemets contre les élites, le parlement, les juges, les médias, etc. Une stratégie à la Trump, si vous voulez, qui remonte au référendum, qui a bien marché. Et dont Boris Johnson espère encore qu'elle va marcher, qu'elle va lui permettre de gagner des élections, mais qui est tout à fait mortifère pour le parti, parce que là-dessus, tout le monde ne le suit pas. Et cette évolution dont je parlais, donc à rebours des traditions du parti, elle est à la fois efficace à court terme et quand même très dangereuse pour les partis, y compris pour le Parti conservateur à long terme.
Alors pour savoir si cette stratégie-là fonctionne, pour savoir ce qu'en pensent et les électeurs du Parti conservateur et les électeurs et citoyens du Royaume-Uni en général, à quoi faut-il se référer, Pauline Schnapper? Est-ce qu'il faut d'abord regarder les résultats des élections européennes de mai dernier qui ont placé les conservateurs en cinquième position seulement, loin derrière le parti du Brexit de Nigel Farage, par exemple? Ou est-ce qu'il faut regarder les sondages récents, comme celui de The Observer, qui a publié récemment un sondage? 37% des personnes interrogées soutiennent les conservateurs, 22% le Labour et 17% les libéraux-démocrates.
Alors, il faut regarder les deux en tenant bien compte du fait qu'aux élections européennes, les gens ne votent pas de la même façon qu'ils voteraient pour des élections législatives. D'abord parce qu'elles se font à la proportionnelle. Et donc, on peut être attiré par des petits partis en sachant qu'ils ont des chances d'être élus, contrairement aux élections législatives qui sont au scrutin majoritaire, à un tour. Et par ailleurs, aux élections européennes, la participation électorale est toujours très faible. Donc les résultats de ces élections doivent être pris avec prudence. Cela dit, elles ont quand même montré donc une portion non négligeable de la population a voté pour ce Brexit Party, ne veut plus entendre parler du Brexit, veut sortir à tout prix. Et ce sont ces résultats des élections européennes qui ont amené Boris Johnson à cette position jusqu'au boutiste pour récupérer les voix du Brexit Party. Et si on regarde maintenant les sondages dont vous parliez, ça marche, c'est-à-dire que avec toute la prudence qui s'impose sur les sondages, bien sûr, mais apparemment, le Parti conservateur semble en voie de récupérer une bonne partie de ses voix du Brexit Party. En tout cas, il est nettement en tête dans les sondages par rapport aux deux partis d'opposition qui sont divisés, les travaillistes et les libéraux-démocrates, qui, s'ils étaient ensemble, feraient mieux que les conservateurs, mais qui, séparément, sont, comme vous l'avez dit, autour de 20% chacun, donc loin derrière les conservateurs, a priori, avec, encore une fois, beaucoup de prudence.
Pauline Schnapper, la Cour suprême a désavoué Boris Johnson la semaine dernière en déclarant la suspension du Parlement illégale, nulle et non avenue, et surtout en annulant cette prorogation. Alors, je résume en quelques mots. Johnson, qui était alors à l'Assemblée générale de l'ONU, a dû rentrer en urgence, séance tumultueuse au Parlement britannique, où il a défié les députés de l'opposition de déclencher un vote de défiance. La presse britannique spécule aujourd'hui sur ce vote de défiance dont elle dit qu'il pourrait intervenir cette semaine. Mais pourquoi ce ne seraient pas les conservateurs qui déclencheraient ce vote de défiance comme ils l'ont fait l'année dernière contre Theresa May ?
Alors, tout simplement parce que les conservateurs ne peuvent pas le faire. Ils ont besoin, d'après la loi de 2011, d'une majorité des deux tiers au Parlement. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que les travaillistes votent avec eux, ce qu'ils ne vont pas faire. Et si, parce que s'ils faisaient ça, si les travaillistes votaient avec les conservateurs, il y aurait des élections automatiques dans le mois qui vient. Or, les travaillistes ne veulent pas ça. En revanche, une motion de défiance simple, si je puis dire, contre le Premier ministre, aboutirait à ce que la reine demande aux leaders de l'opposition d'essayer de former un gouvernement. Et c'est à cela que les partis d'opposition réfléchissent ces jours-ci, parce que dans ce cas-là, il n'y aurait pas d'élection tout de suite. L'objectif des travaillistes, c'est de ne pas avoir d'élection avant le 31 octobre, parce qu'ils ont peur d'une sortie sans accord. Donc ils veulent bien sûr des élections, mais après le 31 octobre. Et pour cela, une motion de défiance et, alors là c'est vraiment très hypothétique, un Jeremy Corbyn ou un autre mis au 10 Downing Street pendant quelques semaines permettrait d'éviter cette sortie sans accord le 31. Mais cela suppose, et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, que les députés conservateurs opposés à Johnson acceptent de voter avec les travaillistes, ce qui n'est pas fait du tout.
Ouais, et quant à Jeremy Corbyn, il n'a pas que des soutiens dans l'opposition. Avec le Parti National Écossais, par exemple, ça ne colle pas vraiment, qu'il traite de dangereusement gauchiste.
Oui, avec les libéraux-démocrates aussi, et y compris avec une partie de ses propres troupes. Donc c'est compliqué de ce côté-là aussi.
Eh bien, merci beaucoup Pauline Schnapper d'avoir été avec nous ce matin pour en parler. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Où va le Royaume-Uni ? Le Brexit et après, que vous avez coécrit avec Emmanuel Avril, paru très récemment aux éditions Odile Jacob. Merci à vous. Bonne journée.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'histoire autrement, nouveau sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Cette semaine, nous nous intéressons à la naissance des religions, comment les grands monothéismes s'appuient-ils sur des croyances antérieures pour se construire et surtout pourquoi doivent-ils sans cesse se réinventer.
La naissance des religions, le cours de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr. Elles nous émeuvent, nous forment, nous interpellent. La compagnie des œuvres sur France Culture. Mathieu Garrigou-Lagrange.
Tous les grands classiques ont leur place sur France Culture. La compagnie des auteurs devient la compagnie des œuvres. Nous y parlerons de tout avec le même principe raconté en partant de la vie et en allant vers l'œuvre pour l'apprécier et la comprendre.
Peintre de la violence, de la tragédie, il se disait hanté. Alors qu'une exposition événement lui est actuellement consacrée au Centre Pompidou à Paris, une semaine autour de Francis Bacon dans la compagnie des œuvres, sur France Culture, de lundi à jeudi à 15h et sur franceculture.fr.
Il est 6h57, soit 3 minutes avant que les matins ne commencent. Bonjour Guillaume Herner.
Si, bonjour Julie Gacon.
En fait.
Bonjour à toutes et à tous.
Avec votre humeur du jour. Alors, pour parler de la catastrophe de Rouen comme il se doit, peut-être qu'il faut se demander ce que Jacques Chirac en a dit.
Eh oui, j'imagine que la seule manière de pouvoir parler de la catastrophe Lubrizol à Rouen, c'est d'évoquer une déclaration de Jacques Chirac à ce sujet, mais bien entendu, ça pose quelques difficultés pratiques, moins qu'on ne le pense toutefois, puisque figurez-vous que dans un cas semblable, en septembre 2001, lors de la catastrophe AZF à Toulouse, le président de la République s'appelait Jacques Chirac, tandis que le Premier ministre, lui, se nommait Lionel Jospin. Et justement, Lionel Jospin savait à l'époque que son image était trop techno, pas assez proche des gens, et lors de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, il réussit à battre de vitesse le président puisqu'il fut sur place dès le vendredi matin où il en rajouta sur son ancrage local. J'ai voulu venir ici immédiatement, d'abord parce que cet accident est dramatique, expliqua Jospin, ensuite parce que c'est Toulouse et ma région, expliqua-t-il. Quant à Jacques Chirac, il parvint en écourtant une rencontre avec le président sénégalais à être sur les lieux de la catastrophe en début d'après-midi, un horaire parfait pour donner les images nécessaires aux journaux télévisés de 20h. Une fois arrivé, Chirac insista sur son, je cite, « impression d'être personnellement touché ». À plusieurs reprises, à la suite de la catastrophe AZF, mais aussi pendant la grande tempête qui toucha la France en décembre 1999, Jacques Chirac se montra beaucoup plus compassionnel que Lionel Jospin. Il faut croire que les politiques n'apprennent rien ou pas grand-chose, puisqu'aujourd'hui, leur compassion est allée essentiellement vers un homme qui n'en a plus besoin, Jacques Chirac. L'on voudrait donner l'impression aux Rouennais qu'ils sont abandonnés, on ne s'y prendrait pas autrement, d'autant que les déclarations relatives à la situation là-bas sont parfaites pour nourrir les inquiétudes et le complotisme. On a dit les analyses sont normales, mais la ville a été clairement polluée. Ça, c'est la ministre de la Santé. Tout va bien, mais il ne faut pas consommer les fruits et légumes qui n'ont pas encore été récoltés. Si vous nettoyez la suie, portez des gants, expliquent les pouvoirs publics. Et enfin, la situation est sous contrôle, mais l'Agence régionale de santé demande aux habitants des Hauts-de-France de signaler toute trace de suie. C'est dommage que Jacques Chirac ne soit pas né à Rouen, parce qu'au moins, on aurait tout dit sur sa ville natale.